Bonjour à vous, cow-boy Laurentin, et bonjour à vous, auditeurs du désert et des plaines du Grand Ouest. Préparez-vous pour la poursuite infernale de John Ford, au titre original, poétique et sentimental, My Darling Clementine.
Mac, tu n'as jamais été amoureux?
Non, j'ai été barman toute ma vie.
Les westerns, ce sont aussi et peut-être d'abord une mélodie, des voix graves qui traînent et des voix aiguës qui en rajoutent. L'accent rond et nonchalant, la guitare sèche et l'harmonica au premier plan sonore, le bruit des roues des chariots sur les cailloux, de la bouteille de whisky qu'on débouche d'un coup sec et qu'on boit au goulot, sur le cheval, au pas. Les coups de feu, toujours les mêmes. Le western est un genre, et comme la comédie, comme le road movie, on sait pourquoi on y retourne, mais on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Créer de la surprise dans la répétition, c'est ce que John Ford maîtrisait à la perfection, même si on ne peut pas compter sur lui pour nous expliquer pourquoi.
11, take one.
Une prise, ça suffira. On n'a pas besoin de plus. Moteur.
Monsieur Ford, vous avez fait un film qui s'appelait Les Trois Sublimes Canailles. C'était un western de grande envergure, avec un décor très travaillé. Comment avez-vous tourné ce film ?
Avec une caméra.
Monsieur Ford, j'ai remarqué que votre vision de l'Ouest était devenue de plus en plus sombre et, disons, mélancolique avec le temps. On peut prendre par exemple le convoi des braves et l'homme qui tue à Liberty Valance. C'est quelque chose dont vous êtes conscient ?
Non.
Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le western au départ ?
J'en sais strictement rien.
Would you agree that the point of Fort Apache?
Est-ce que le message du massacre de Fort Apache est que la tradition dans l'armée est plus importante que l'individu?
Cut.
Coupé.
Bonjour Cécile Gornet.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que John Ford n'aime pas parler de son travail.
Oui, effectivement. D'ailleurs, il le dit dans d'autres interviews écrites. Il dit par exemple, malgré l'amour que j'ai pour mon métier, je déteste l'analyser. En parler me donnerait l'impression de n'avoir rien fait. Et là, c'est vrai que dans l'archive que vous avez passée, il est particulièrement laconique.
En revanche, vous aimez parler de John Ford, enfin je l'espère.
Oui.
Vous aimez travailler sur ses films. Vous avez passé de nombreuses heures en la compagnie de ses films, puisque vous avez rédigé votre M2, votre mémoire de maîtrise en deuxième année, sur l'écriture de l'histoire au miroir du cinéma dans les westerns de John Ford, un mémoire qui est publié chez Classy Garnier, qu'on peut se procurer. Et vous êtes en train d'écrire votre thèse sur John Ford et sur le passage du scénario au film, n'est-ce pas ?
Oui, après avoir travaillé exclusivement sur les westerns et puis dans une perspective de comparaison entre le cinéma et l'historiographie, là j'ai ouvert le champ à toute la filmographie de Ford. Enfin, c'est impossible de l'embrasser complètement, mais en tout cas...
Parce qu'elle est gigantesque,
c'est immense.
Combien de films ?
Il y a 60 films muets dont les deux tiers sont perdus et autant de parlants. Donc c'est effectivement énorme, et il n'y a évidemment pas que des chefs-d'œuvre, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de très grands films. Et donc la question qui m'intéresse actuellement, c'est d'étudier la mise en scène de John Ford, en regardant comment il passe du scénario au film, comment il transforme le scénario au tournage. Donc il y a une approche un peu génétique, et puis en même temps c'est une approche essentiellement esthétique, puisque ce qui m'intéresse ce sont les effets que le spectateur peut voir dans le film une fois terminé.
Quand on vous a proposé de venir parler de Ford pour cette série d'émissions sur le western, vous avez proposé ce film La Poursuite Infernale, en anglais My Darling Clementine. Déjà un mot sur ces traductions, parce que les traductions des films de Ford et des westerns ne correspondent presque jamais au titre original.
Oui, c'est presque un jeu, on peut s'amuser à regarder, à comparer chaque titre et sa traduction. On a l'impression qu'à chaque fois les distributeurs français s'évertuent à faire des contresens, et je crois fondamentalement qu'ils veulent les présenter comme des films d'action, alors qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Et pour Madame Clementine,
c'est ça, les titres en français sont plus centrés sur l'action.
J'ai l'impression
que
ce sont des titres qui essayent d'attirer le spectateur en donnant l'idée qu'ils vont voir un western avec l'action qu'ils s'attendent à y voir. Là, pour La Poursuite Infernale, c'est le cas. Il n'y a pas la poursuite dans le film. À la rigueur, on trouve deux poursuites. celle de Doc par Wyatt Earp lorsqu'il croit que c'est lui qui a tué James puisqu'il a découvert le bijou au cou de Chihuahua. Et puis la poursuite d'un des frères Clanton par les frères Earp vers la fin du film. Mais c'est absolument pas le nerf de l'intrigue du film.
Alors avant d'en arriver à ce film précisément qu'on va raconter avec vous, hein, Cécile Gorner, assurez-vous, si vous n'avez pas vu le film, chers auditeurs, vous ne serez pas complètement perdus. Au contraire, vous allez avoir envie de le regarder, je crois, avec les quelques extraits qu'on vous a préparés. Un mot quand même sur John Ford et votre intérêt pour John Ford. Qu'est-ce qui, dans l'histoire du western, parmi tous les westerns et les réalisateurs de western à votre disposition, qu'est-ce qui chez John Ford vous a particulièrement plu? Comment le distinguer dans son approche du western des autres?
J'ai l'impression que, quitte à travailler sur un grand cinéaste, autant travailler sur le plus grand.
C'est ce que je me suis dit. C'est indiscuté.
Et puis, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a frappé dans ces westerns, c'est leur caractère fondateur, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire, mais avec cette idée que ils se contentent pas de mettre en scène l'histoire de la fondation de l'Amérique, mais ils travaillent à mettre en scène la manière dont elle s'est écrite, donc le rapport avec l'écriture de l'histoire. C'est vraiment par cette entrée-là que je me suis intéressée à John Ford, l'aspect historiographique de ses films. C'est vraiment ça qui m'a semblé intéressant au départ.
Et donc pourquoi La Poursuite Infernale ?
Alors, j'ai trouvé que c'était un film intéressant par ses conditions de production. Parce que c'est le point d'orgue de sa collaboration avec la Fox et avec Daryl Zanuck, donc le chef de la production à la Fox. Et Fox est sous contrat avec la Fox depuis 1921. Et en 46, il décide de ne plus renouveler ses contrats et de passer à une forme de production plus indépendante. Et il doit encore un film à la Fox et à Zanuck. Et donc, ce sera My Darling Clementine, que c'est Zanuck qui le lui propose. Et on peut considérer que c'est vraiment le point d'orgue d'une collaboration qui est extrêmement riche, extrêmement fructueuse, qui a donné naissance à de très beaux films. Par exemple, Les Raisins de la Colère, pour lequel Ford a obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur. Et puis l'année d'après, Quelle était verte ma vallée, où là, ils ont tous les deux l'Oscar, meilleur film pour Zanuck et meilleur réalisateur pour Ford.
On y va, on écoute le début du film.
Allons-y.
La première rencontre entre Wyatt Earp, qui sera le personnage principal du film, interprété par Henry Fonda, qui rencontre le vieux Clanton, Walter Brennan et ses deux fils. Ils vont lui proposer de racheter son bétail. C'est la première rencontre qui prépare ensuite le moment du vol de bétail et du meurtre qui va avoir lieu.
Howdy. Howdy. My name's Clanton. It's my boy Ike, my oldest boy. Any sweet water up beyond?
Yeah, 2-3 miles straight up the trail. Cattle look pretty scrawny.
Yeah.
Tes bêtes ont l'air plutôt maigres.
Ouais. Moi et mes frères, nous les conduisons jusqu'en Californie.
Si tu n'as pas encore traité avec quelqu'un, je peux t'en débarrasser.
Ça ne m'intéresse pas.
Je te ferai une bonne offre. Je te paierai en argent, $3 par tête.
Non.
Pourrait monter jusqu'à $5 argent.
J'ai payé plus que ça au Mexique.
Elles auront bien triste allure quand tu arriveras en Californie, fiston.
Elles engraisseront vite dans un pays d'herbage. Ici, c'est une rude contrée. Pas bonne pour le bétail. Bien différente de celle d'où je viens. Comment est-ce qu'on l'appelle?
Derrière la colline, il y a une ville. Appelée Tombeau. Ville épatante.
Tombeau. Oui, connais ce nom-là. Eh bien, moi et mes frères, nous pourrions y aller ce soir, on se ferait raser et nous pourrions boire un coup.
Oui, vous vous amuserez. Ville vivante, ville joyeuse, ce Tombeau. On trouve tout ce qu'on veut là-bas.
Merci.
Et le ton est donné, hein. La ville joyeuse, ville vivante dans laquelle on trouve ce qu'on veut, Cécile Gorner, s'appelle Tombeau, Tombstone en anglais.
Oui, c'est toute l'ambiguïté de cette ville de pionniers, en fin de compte, qui à la fois porte dans son nom le deuil de quelque chose. Alors, est-ce que c'est le deuil de l'Est que les pionniers ont quitté? Est-ce que c'est le deuil de l'Ouest qui est en train de disparaître au fur et à mesure qu'il est conquis? Donc, il y a cette ambiguïté dans cette ville qui est en même temps une ville pionnière, donc en construction, en devenir. On va assister à l'inauguration du clocher d'une église en construction. Le barbier a reçu un nouveau fauteuil. On voit des tentes de colons au bord des rues. Donc c'est à la fois une ville tombeau, effectivement, et puis une ville en devenir. Et là, dans cette première, c'est la première scène, en fin de compte, hein, on a vu arriver dans Monument Valley les frères Earp avec leur troupeau. Et c'est la première confrontation avec l'autre famille, la famille Clinton. Alors là, dans cet extrait, on ne voit que le père et un de ses fils. Il manque les trois autres fils. Mais on a déjà une idée de ce que sont leurs relations, parce que le fils reste complètement muet pendant toute la scène. C'est le père qui parle pour lui. Et puis, cette proposition d'achat à laquelle Wyatt Earp répond par la négative va être effectivement suivie ensuite d'un vol, d'un meurtre du jeune frère qui était resté au campement pour garder le troupeau. Et ça va enclencher la décision de Wyatt Earp de rester dans cette ville, alors qu'il pensait n'être que de passage avec ses frères, d'accepter la fonction du marshal de la ville.
Du shérif.
Et du shérif, exactement. Et toute l'ambiguïté de cette acceptation, c'est qu'on ne sait pas très bien s'il le fait par respect de la loi ou par souci de vengeance. Et c'est un des enjeux du film aussi, de penser le rapport entre la nature et la violence et la loi, la justice, la civilisation de manière ambiguë. Là, on peut avoir l'impression que les Clinton et les Earp illustrent cette opposition de manière peut-être un peu schématique pour l'instant. Les Clinton qui seraient du côté de la brutalité, de la barbarie, et les Earp plutôt du côté de la justice et de la civilisation. Mais tout au long du film, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, en fin de compte.
Et il faut dire aussi que ce Wyatt Earp a vraiment existé.
Oui, alors c'est un personnage. Et,
les Américains connaissent très bien.
Qu'ils connaissent bien, mais peut-être qu'ils connaissent mal, parce qu'ils le connaissent à travers la biographie très romancée que Stuart Lake a écrite, je crois que c'est paru en 1930, et à partir de laquelle il y a déjà eu des adaptations cinématographiques. D'une certaine façon, Madame Clementine est un remake. Et en fait, Wyatt Earp, dans cette biographie, est présenté comme un marshal irréprochable, alors qu'en fin de compte, le personnage réel n'a pas été aussi irréprochable qu'on le présente.
Mais il est lié à une légende restée célèbre et dont on emploie encore le nom à laquelle on fait référence, même dans le langage français, c'est Hockey Corral.
Oui, le fameux règlement de compte, qui est donc le point d'acmé du conflit entre les Earp et les Clinton, cette fusillade par laquelle s'achève presque le film de John Ford.
Et qui là aussi a vraiment eu lieu.
Oui, elle a vraiment eu lieu, mais en fait, elle n'a pas été le point d'orgue d'un conflit, elle a plutôt été son point de départ dans les faits. C'est-à-dire que les Earp et les Clinton se sont affrontés, effectivement, mais presque personne n'est mort lors de cet affrontement. Et c'est ensuite, au fur et à mesure des représailles, qu'il y a eu des morts de part et d'autre. Et donc le roman et les films qu'il adapte inversent en fait la chronologie par rapport aux faits divers et font du règlement de compte finalement l'apogée de l'intrigue, alors qu'en fin de compte, dans les faits, ça n'était qu'un point de départ.
Mais alors pourquoi le Hockey Corral est-il resté dans la mémoire?
Parce que dans la manière dont on présente Wyatt Earp, on considère que ça a cristallisé la tension. Et puis je pense que cinématographiquement, un règlement de compte dans une ville pionnière, c'est extrêmement spectaculaire.
Ça signifie en tout cas aujourd'hui une forme de règlement de compte avec des armes, en ayant recours à la violence. C'est
oui,
ça
oui,
que ça veut dire, Hockey Corral.
Exactement.
Donc est filmé ici, ce qui montre le décalage que le cinéma opère par rapport à l'histoire d'un pays. D'un côté, le western est une manière de raconter l'histoire du pays, et de l'autre, peut-être de l'inventer, de la romancer pour essayer de se la réapproprier différemment.
Oui, en plus, s'agissant de l'histoire de la fondation de l'Amérique, ce dont il est question quand même dans tous les westerns, on ne peut pas ne pas avoir en tête que cette histoire s'est écrite en collusion avec le mythe, c'est-à-dire elle s'est mythifiée en même temps qu'elle s'écrivait, puisqu'elle s'est écrite en même temps qu'elle se passait et que l'Ouest conquis disparaissait. Donc il y a une mythification à l'œuvre dans cette histoire et le cinéma s'en empare évidemment avec joie.
Justice, vengeance, violence, trois ingrédients nécessaires à tout western digne de ce nom, quelle que soit sa catégorie et ses modalités de réalisation, mais aussi vie quotidienne. On l'a entendu, on commence le film avec une négociation autour du bétail et l'évocation du rasage. Il faut aller se faire raser, c'est le sens du second extrait qu'on va entendre. Ils vont aller chez le barbier, Wyatt Earp et ses frères, dans cette fameuse ville tombeau donc. Et les trois cow-boys vont être un peu déboussolés parce qu'ils découvrent en arrivant qu'il y a un indien, encore un ingrédient nécessaire à tout western, un indien ivre qui terrorise la ville. Écoutez.
Good evening, gentlemen. Welcome to the Bon Ton Tonsorial Parlor.
Barbershop?
Well, if you want to call it that. What can I do for you?
Shave.
Haircut?
Shave.
We give baths too.
Shave.
Oh.
janvier. Eh bien, Luc, tu connais ton devoir. Toi et tes adjoints, entrez là et faites-le sortir.
C'est Charlie l'Indien qui est là, sous. Et je n'ai pas du tout envie de me suicider, moi.
Moi non plus.
Non, je n'entrerai pas là-dedans.
Qu'est-ce que c'est que cette ville-là, à la fin?
Pardon, madame. On ne peut pas se faire la barbe sans qu'on vous fasse sauter la tête?
C'est toi le shérif, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'entres pas pour sortir cet
Indien? Pourquoi n'entres-tu pas pour le sortir toi-même?
Je ne suis pas payé pour ça.
Et moi, on ne me paye pas assez pour ça.
Aïe!
Jeune homme, soyez prudent!
Qu'est-ce que c'est que cette ville à la fin où on vend de l'alcool aux Indiens? Je lui ai fait une bosse sur le crâne aussi grosse qu'un œuf de daim. L'Indien file de cette ville et ne revient pas.
Shave, please.
Well, we sure want to thank you, Mr. Earp.
Wyatt Earp.
What? You're not by any chance the marshal from Dodge City.
Ex-marshal.
Shave, 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 à la répétition de la demande de se faire raser par Wyatt Earp correspond la répétition des tirs de fusil qu'on entend Cécile Gornet, qu'on entend tout au long du film. C'est toujours le même son d'ailleurs, ce qui peut être assez comique si la scène elle-même... Bon, elle est comique, hein, mais oui. Bon, c'est quand même une tuerie. Alors vous dites, c'est très intéressant qu'on fait de l'Indien l'ennemi numéro un dans les westerns, alors que c'est souvent même l'État, la loi, une autre loi que la sienne, celle du cow-boy qui est désignée comme étant l'ennemi, mais que dans les westerns de Ford, il y a une distance qui est prise avec cette opposition frontale entre les blancs gentils d'un côté et les Indiens sauvages de l'autre.
Oui, Ford... Alors, My Darling Clementine n'est pas le film le plus probant de ce point de vue, puisque l'Indien, comme on vient de le voir, est évacué dès le début du film. Mais en même temps, il est évacué parce que des Blancs l'ont fait boire. Donc la responsabilité de son comportement est plutôt attribuée aux Blancs par le film. Et puis dans le film, on voit des silhouettes d'Indiens qui nous regardent d'ailleurs parfois. Il y a un couple d'Indiens assis au pied du mur de la prison sur un plan et qui sont face caméra. Puis on voit des Indiens passer, etc. Et c'est vrai que Ford, dans ses films, donne aux Indiens ou leur redonne la place que la Fondation de l'Amérique leur a enlevée. En les resituant dans leur paysage, en leur rendant leur territoire. Et le fait qu'ils tournent 7 westerns à Monument Valley, qui est la terre sacrée des Navarros, est assez significatif. Et comme s'ils voulaient réparer quelque chose de cet oubli, de cette négation des Indiens par la Fondation de l'Amérique. C'est très présent dans ces films.
Et dans sa vie, il était même connu par les Indiens locaux avec lesquels il tournait. Et je crois les Indiens l'avaient surnommé.
Oui, ils l'ont adopté, ils lui ont donné ce surnom Nathan Inès, qui veut dire grand chef. Il était très content d'être adopté par eux, de parler un peu leur langue et de leur donner du travail. Parce qu'une de ses motivations pour tourner à Monument Valley, c'était aussi de faire travailler les Navarros, de les soutenir économiquement. C'était aussi d'être à l'extérieur, d'être loin des studios et d'avoir la paix et d'être dans les grands paysages. Mmh. Mais c'était aussi d'aider les Indiens.
Les grands paysages qui sont très présents dans ce film, on y reviendra un peu plus tard. Dans la scène du barbier, on entend à la fois la dimension comique et prosaïque des soucis corporels, de ce barbier qui vient de se faire livrer une nouvelle chaise pour raser les jambes mais qui ne fonctionne pas du tout, l'irruption de l'Indien. Il y a un climat qui s'instaure et on entend le récit qui va commencer à s'installer.
Oui. Mais Ford le fait commencer et en même temps le perturbe. Et moi, je trouve vraiment que cette scène est traitée sur un mode burlesque. C'est cette série de gags avec la bascule du dossier. Finalement, se faire raser pour des cow-boys, c'est passer de la sauvagerie à la civilisation. Mais c'est mis en scène de manière biaisée. Il n'y arrive pas complètement. Il est obligé de sortir le savon à la barbe pour intervenir. Parce que finalement, toute cette scène, elle commence par le rasage et elle se termine par la réclamation par Herb d'être enfin rasé. Il rattrape le barbier au vol une fois qu'il a mis l'Indien hors de nuire et on a l'impression que sa seule motivation pour son intervention c'était de poursuivre cette œuvre de rasage et les effets comiques sont permanents dans cette scène comme des contrepoints et Ford le fait dans tout le film et dans tous ses films d'ailleurs.
Donc, et ce souci, c'est quoi? C'est le souci du quotidien, des choses réalistes, des petits détails?
Alors, il y a les deux. Il y a effectivement ce souci de faire entrer dans sa narration et dans la fiction ce que j'appellerais des éclats de réel. Ça se fait effectivement par cette attention à des petits détails, comme le fait d'aller chez le barbier, le fait de découper un poulet au restaurant, les femmes qui annoncent l'arrivée de la diligence en tapant sur des cloches, etc. Et puis, je crois aussi que la ponctuation par le gag, c'est une manière de dialectiser l'opposition un peu manichéenne entre sauvagerie et civilisation, qui est quand même l'opposition majeure du western, celle de la dynamique de la frontière, en fin de compte. Mmh. Et Ford la traite avec dérision, avec humour. Donc, à la fois en ponctuant de gags le rasage des cow-boys, et puis aussi cette scène de justice, elle est aussi traitée de façon assez comique, la manière dont il met l'Indien hors d'état de nuire. Il doit entrer par la fenêtre chez des femmes qu'apparemment il terrorise, on les entend crier, et il y a tout un tas de gags qui viennent finalement perturber un peu l'idée qu'on se fait du rapport entre la force et la justice.
Précisément parce qu'ici il s'agit de rétablir le calme dans cette ville qu'il ne connaît pas. Toute la question que pose ce film et la plupart des westerns en général est celle de savoir si les cow-boys agissent au nom de la justice ou au nom d'une loi qu'ils se donnent à eux-mêmes. Et ce personnage de Wyatt Earp incarne cette ambivalence.
Exactement. Quand il intervient là, il est à la fois plus Marshall, puisqu'on apprend qu'il est l'ex-Marshall de Dodge City, et il ne l'est pas encore, puisque ensuite il va accepter de le devenir.
Parce que pour le remercier d'avoir neutralisé l'Indien, on va lui proposer de devenir shérif de la ville.
Et oui, on se dit, voilà quelqu'un d'efficace et courageux. Et il commence par refuser. On comprend qu'il n'était intervenu que pour pouvoir se faire raser tranquillement. Et ensuite, il va accepter lorsque son frère James a été tué. Et du coup, on ne comprend pas très bien dans sa motivation s'il y a un souci de justice ou uniquement le désir de vengeance. Et cette ambiguïté va perdurer tout au long du film.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois qu'il faut la maintenir. Il faut absolument pas trancher. Je pense que c'est ça qui intéresse Ford. Et d'ailleurs, c'est aussi l'ambiguïté qui traverse le personnage de Doc Holliday, qui d'une certaine manière est un peu le miroir inversé de Wyatt Earp. C'est un hors-la-loi, mais il vient de l'Est. Il était auparavant chirurgien dans le film, dentiste en réalité. Il a basculé d'une certaine manière, mais la bascule n'est pas totale. Et finalement, il aide à la fin Earp à intervenir contre les Clanton lors du fameux règlement de compte. Et on ne sait pas très bien, lui aussi, si c'est par souci de vengeance, puisque la femme dont il était amoureuse, Chihuahua, a été assassinée par les Clanton, ou si c'est pour contribuer à l'œuvre de justice qu'il se sacrifie. Donc cette ambiguïté, je pense vraiment qu'il faut la maintenir.
Parce que ça va très loin, ça veut dire que peut-être toute personne qui œuvre au maintien de la justice agit aussi par intérêt personnel.
Oui, et aussi cela montre que l'établissement de la justice ne peut pas se passer de la force. Et on voit ça dans beaucoup de westerns de Ford, et en particulier dans ce western assez tardif qui est L'homme qui tue à Liberty Valance, mmh. où là, c'est cette ambiguïté, elle est formée par ce trio de personnages. Donc il y a le personnage incarné par James Stewart, qui est le jeune avocat idéaliste qui arrive dans l'Ouest avec l'idée qu'il va établir la loi juste avec ses livres de code. En face, il y a Liberty Valance qui incarne la force brute et avec son fouet et qui détruit les livres de l'avocat Stoddart dès le début du film. Et entre les deux, il y a celui qui fait la jonction entre la force brute et la loi idéalisée. C'est Tom Doniphan, le cow-boy qui met sa force au service de la justice, joué par John Wayne. Donc je crois vraiment que cette dialectique de la force et de la loi, elle est mise en scène par le cinéma. Et d'une certaine façon, c'est aussi celle que pense la philosophie lorsqu'elle se demande quel est le rapport finalement entre la force et la justice.
Et qu'on se pose tous, même à titre individuel, et surtout sans doute aux États-Unis où la question du port d'armes est brûlante en ce moment, si j'ose dire. Et dans tous les westerns d'ailleurs, on se demande comment les personnages pourraient s'en sortir sans armes, ce qui jette un trouble sur les réflexions morales qu'on peut avoir sur la question, parce que vous dites oui, peut-être que la force est nécessaire à l'établissement de la justice. C'est pas forcément ce qu'on a envie de penser lorsqu'on se dit qu'il est absurde que tout le monde puisse porter un pistolet n'importe quand. Ce trouble-là, il est particulièrement intéressant et il intéresse même quand on habite de l'autre côté de l'Atlantique et quand on n'est pas dans une problématique américaine.
Oui, c'est clairement une problématique américaine. Et puis, plus largement, c'est déjà ce que disait Pascal, la justice sans la force est impuissante, la force brute n'est pas juste. Enfin, c'était pas exactement ça, la citation n'est pas correcte, mais c'est vraiment une problématique qui traverse aussi toute la philosophie politique.
Comme s'il y avait une espèce de jubilation fantasmée à voir sur l'écran ce qu'on ne souhaiterait pas voir dans la vie.
Oui, on le refoule, on se donne l'illusion que la justice tient toute seule. Et les westerns montrent que c'est pas exactement comme ça que ça se passe.
Alors, on va assister à la rencontre entre Wyatt Earp et ce Doc Holliday dont vous avez rapidement parlé, joué par Victor Mature. Peut-être deux mots sur ce personnage de Doc Holliday avant qu'on l'entende.
Oui, c'est un personnage qui visiblement tient les affaires des tables de jeu dans la ville. Donc c'est plutôt un hors-la-loi. Mais on comprend que c'est finalement un homme de l'Est déchu. On ne sait pas très bien comment il en est arrivé là. Ce n'est pas dit dans le film. C'est un ancien dentiste et il a fui quelque chose. Et c'est justement lui que Clementine, qui donne son nom au titre du film, vient retrouver. Elle le cherche. C'est une infirmière. Elle était sa fiancée. Et on comprend qu'il a fui quelque chose et qu'il s'est, d'une certaine façon, réfugié dans une attitude de hors-la-loi qui n'est pas totalement franche. Donc il est à la fois l'ami de Wyatt Earp et en même temps son adversaire. Ils vont devenir rivaux autour de Clementine puisque Earp va tomber progressivement amoureux d'elle. Et puis Doc Holliday voudrait que Clementine s'en aille, qu'elle retourne.
Elle lui rappelle sa vie d'avant.
Exactement. Et elle refuse de le faire. Et ça, effectivement, ça le rend furieux et ça le met devant ses propres contradictions.
Il y a toujours ce rapport au passé et dans le western et chez chacun des personnages dans le western. Il faut oublier la vie d'avant, soit parce qu'on a été hors la loi de manière tellement terrible et violente qu'il faut essayer de se convertir à autre chose, soit parce qu'on ne veut pas se rappeler ce qui s'est passé avant. C'est un leitmotiv du western.
Oui, c'est vraiment la dynamique de la frontière. C'est une dynamique de passage, de déséquilibre. D'ailleurs, c'est mis en scène dans le film, je me faisais la réflexion en le revoyant, par la manière dont Fonda, Earp, s'assoit sur sa chaise en équilibre instable, en équilibre sur les deux pieds arrière de la chaise, avec les pieds en appui sur le pilier devant lui. Et c'était déjà préfiguré par le gag de ce fauteuil de barbier qui l'a fait basculer en arrière. Et on a vraiment l'impression de personnages qui sont sur la bascule, toujours en position d'instabilité. Et ça n'est pas résolu.
Howdy.
Good evening.
I'm Wyatt Earp.
I know. I know all about you. And your reason for being here.
But I heard a lot about you too, Doc. You left your mark around in Deadwood, Denver and places. Fact, a man could almost follow your trail going from graveyard to graveyard.
Au fait, on pourrait presque suivre ta piste de cimetière en cimetière. Il y en a un ici. Le plus grand cimetière à l'ouest des Rocheuses. Le shérif et moi, d'habitude, on s'entend bien mieux quand nous nous sommes entendus là-dessus. Je vois ce que tu veux dire. Bon, tu bois un coup? Merci, c'est pas de refus. Mac, une coupe de champagne pour le shérif, plutôt de l'agneau. Tu es mon invité. Champagne. Champagne, alors, Mac. Tu restes longtemps ici?
Assez.
Le temps de prendre des voleurs de bétail qui ont tué ton frère.
En gros, c'est ça l'idée.
Quelle est l'idée en détail?
Je ne te suis pas très bien.
Tu ne t'es pas mis dans la tête l'idée de nous débarrasser de tous nos maux?
Oh, je n'ai pas pensé tout à ça, mais ce n'est pas une mauvaise idée. C'est pour ça que je suis payé.
Parlons peu et parlons bien, shérif. Moi, par exemple, que ferais-tu avec moi si je m'avisais de violer la loi?
Tu l'as déjà fait.
Comment ça?
En chassant ce tricheur de la ville. Ce n'est pas ton affaire.
Je vois que nous ne sommes pas du même côté, shérif. Tire.
Le 25 juin 1946. Cher Jack, je tape cette lettre moi-même. À bien des égards, je crois que c'est l'une des lettres les plus importantes que je ne vous ai jamais écrites. Je vais être franc, et je vous prie de me croire quand je dis que je vais être honnête et sincère. Je n'ai pas d'intérêt particulier en ce qui concerne la poursuite infernale, mais j'ai tout de même une grande responsabilité vis-à-vis du studio. Je ne vous ai pas dit toute la vérité la nuit dernière lorsque je vous ai donné mes impressions sur le film. J'y pensais tellement que je n'en ai pas dormi de la nuit, cela m'a occupé l'esprit toute la journée.
Il y a dans ce film beaucoup de scènes et de séquences qui, prises séparément, sont exceptionnelles. On atteint là une certaine splendeur du western et l'on y voit la patte caractéristique de vos meilleures œuvres. Mais je trouve que le film, dans sa globalité et en l'état actuel, est décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos attentes. Croyez-moi, Jack, s'il vous plaît, que je n'ignore en aucun cas tous les moments de pur drame, la création des personnages et la simplicité qu'il y a dans ce film. Mais je crois honnêtement que tout ceci n'est pas suffisant. Si le film n'est pas à la hauteur de mes propres attentes, il ne sera pas non plus à la hauteur de celle du public qu'on paie pour assister aux projections de test. Beaucoup de mes recommandations concernent le montage du film et sont radicales. Je crois que nous avons assez de matière et que vous avez largement tourné de quoi effectuer 95% des changements qui s'imposent, mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas dans la continuité et le développement de l'intrigue et tellement de contradictions dans l'action qu'il fallait que je vous écrive cette lettre. La poursuite infernale continue sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de western cette semaine, aujourd'hui, de My Darling Clementine, en anglais, La poursuite infernale, en français, de John Ford, en compagnie de Cécile Gornet. La lettre que je viens de lire est une lettre écrite par le producteur de John Ford, Cécile Gornet. À John Ford, qu'il appelle Jack.
Oui, c'est le surnom qu'on donne aux Américains qui s'appellent John. C'est d'ailleurs le prénom par lequel il signait ses films jusqu'en 1923, en fait. Tous les films de Ford sont signés Jack Ford. Jusqu'en 1923, où c'est un film Fox qui s'appelle Cameo Kirby, c'est son premier western de série A. Et là, à partir de là, il signe John Ford. Mais Jack, c'est un surnom qu'il continue à utiliser familièrement. Quand il signe les scénarios, on voit des notes manuscrites qui sont signées Jack.
Donc déjà, on ne s'en sort pas entre les traductions des titres anglais et français, ouais. Mais c'est lui-même change de prénom. Donc ce Daryl Zanuck lui dit dans cette lettre, de manière très franche, que le film ne fonctionne pas, qu'il y a des scènes qui sont très belles, mais qu'il faut tout reprendre.
Oui, les désaccords entre Zanuck et Ford portent toujours sur le rythme des films. Il avait déjà fait ce genre de reproche avec Young Mr. Lincoln, film vers sa destinée, aussi avec Henry Fonda sur la vie d'Abraham Lincoln. Et là, ils ont vu le film ensemble la veille, dans un montage supervisé par Ford, fait par Dorothy Spencer, qui est la monteuse Fox, qui est créditée sur son film. Et Zanuck trouve que c'est à la fois trop distendu et incohérent. Il ne reconnaît pas l'action. Il a l'impression qu'on se perd dans le fil de l'intrigue. Je pense que c'est ce que souhaite Ford, parce que fondamentalement, il souhaite conduire ses intrigues de manière...
Et surtout avec ce personnage de Doc Holliday, c'est pour ça que je disais cette lettre après l'extrait.
Peut-être que le personnage de Doc Holliday semble à Zanuck peu crédible, ou instable, ou pas cohérent. En tout cas, il y a de la part de Zanuck une volonté de resserrer le montage du film de façon drastique, ce qu'il fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la version intermédiaire de ce travail de remontage, qui est une version qu'on appelle une version preview, parce qu'elle a été montrée en projection test au public. On l'a retrouvée dans des archives américaines. Et donc, ce n'est pas la version que Ford souhaitait. C'est déjà un premier montage de Zanuck. Mais ce n'est pas non plus le montage définitif du film tel qu'on le connaît, qui sera encore plus radical. Et donc, ça permet de voir des signes de ce que Ford voulait conserver. Et sur le personnage de Doc Holliday, moi, ce que je trouve intéressant dans la scène qu'on a entendue, c'est la manière dont cette rencontre est placée sous le signe de cette ambiguïté qui traverse chacun de ces personnages, sur la difficulté de comprendre quelle position ils ont chacun entre le rôle le rôle de hors la loi ou celui d'être du côté de la loi et de la justice. Et lorsqu'ils se présentent l'un à l'autre, chacun en fait s'arrange pour se présenter à la place de l'autre, comme si les rôles s'échangeaient. Il y a ce rapport, cette tension autour de la boisson, qui est vraiment très significatif.
Il lui offre du champagne.
Oui,
quelle idée, un cow-boy qui boit du champagne et pas
c'est,
du whisky.
Et c'est intéressant parce que le champagne, c'est la boisson de l'Est. C'est de là que vient Doc Holliday. Et en même temps, lui, il est censé être passé à l'Ouest, du côté plutôt de la brutalité. Et Earp, au contraire, exige de boire du whisky, qui est la boisson de l'Ouest, alors qu'il vient d'accepter d'être Marshall et que donc il est censé être plus du côté de la civilisation. Et il y a un jeu comme ça, simplement autour de la boisson. Et puis dans la mise en scène aussi, ils dialoguent tous les deux autour du comptoir. Ils sont dans l'angle du comptoir du bar. Donc ils se font pas vraiment face et en même temps ils sont pas vraiment côte à côte. Et la caméra n'arrête pas de changer d'axe. Il y a des sauts d'axe qui font qu'on ne sait jamais qui est à droite, qui est à gauche. Les positions par rapport à la droite et la gauche s'inversent en permanence tout au long du dialogue. Ça, c'est vraiment extrêmement fort de la part de Ford.
Ce qui crée une forme de confusion à l'égard de ces personnages qu'on aimerait pouvoir
étiqueter, en fait, dire voilà le bon, le méchant, et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, comme c'est impossible. La caméra le montre. C'est impossible. Et même dans la manière dont Ford filme le règlement de compte à la fin, on ne saura jamais si la motivation de Earp était une stricte affaire de famille, comme il le dit au maire et au pasteur qui veulent venir l'aider. Il accepte qu'il les aide, mais avec des fusils déchargés, juste pour servir de leurre, en quelque sorte. Donc il leur dit c'est une affaire de famille, donc on comprend qu'il va à ce règlement de compte avec des motivations personnelles, égoïstes et de vengeance. Et en même temps, au dernier moment, il sort un mandat d'arrêt qu'il avait demandé visiblement au maire de lui écrire et qu'il avait dans sa poche pour arrêter le père Clinton. Donc cette ambiguïté, elle est maintenue vraiment tout au long du film.
Oui, parce que donc un de ses frères a été tué, il veut le venger, on l'a dit, il accepte le poste de shérif dans cette ville, sans doute par intérêt personnel pour venger son frère, mais peut-être aussi par souci de faire régner la justice. Si bien que le reste de l'action se passe dans cette ville et beaucoup aussi en lieu clos. On l'a vu, là, la rencontre avec Doc Holliday se passe dans un bar. Dans ce même bar va avoir lieu une scène complètement inattendue qui est la représentation d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Qu'est-ce que Shakespeare vient faire ici, Cécile Gornet ?
À première vue, pas grand-chose, mais dans un film de Ford...
C'est une scène extraordinaire.
C'est une scène extraordinaire, oui, peut-être on peut...
On l'écoute.
Il se trouve qu'il y a un comédien ambulant qu'on a vu arriver en ville, et on comprend qu'il est attendu dans un saloon transformé pour l'occasion en salle de théâtre, ce qui est d'ailleurs l'occasion pour Ford aussi de tourner des scènes assez pittoresques que Zanuck a pas mal coupées au montage. Quand on voit la version preview, on voit que c'était beaucoup plus long. Et ce comédien a un peu de mal à trouver la salle de théâtre. En fait, il aime beaucoup boire, comme beaucoup de personnages de Ford. D'ailleurs, et il a été retenu dans un autre saloon par les Clinton qui voudraient un spectacle privé, disons, et qui ne s'attendent pas du tout à ce qu'on leur déclame du Shakespeare.
Look, Yorick, can't you give us nothing but them poems?
I have a very large repertoire, sir.
Great. All right, Yorick, go ahead. Shoot.
Minstrel, pray help me. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them.
Tu ne sais rien d'autre que tes poèmes. Tu ne chantes pas. Tu peux peut-être danser.
Laisse-le tranquille.
Qui ploierait sous le fait des lourdes peines de toute une morne vie? Vie. Ah. Aidez-moi, monsieur.
Seule la crainte d'on ne sait quoi après la mort. Cette contrée inexplorée. D'où personne ne revient jamais, nous rend perplexes et nous fait plutôt supporter nos maux que fuir vers d'autres souffrances ignorées. Nos consciences ainsi font de nous des lâches.
Il vous attend au théâtre, monsieur Tandick.
Merci, monsieur. Shakespeare n'est pas pour les tavernes, ni pour les truands.
Shakespeare n'est pas pour les tavernes, ni pour les truands. Et pourtant, cette scène remarquable reste en mémoire. Quand on a ce Granville Thorndike, le comédien ivre qui vient réciter le monologue de Hamlet devant une troupe d'ivrognes accoudés au bar, incapable de l'écouter, et qu'il sort en toussant parce que sa voix elle-même se brise. C'est un pur moment de cinéma qui est en fait assez justifié. Enfin, les liens entre Shakespeare et le western sont beaucoup plus forts que ce qu'on croit.
Oui, et en particulier entre John Ford et Shakespeare. Il le cite dans d'autres films. Et puis, il y a cette pratique shakespearienne du contrepoint, le passage de moments dramatiques entrecoupés de moments comiques. On trouve ça dans tous les films de Ford et c'est un procédé très shakespearien. Ici, il y a vraiment la confrontation à première vue totalement caricaturale du raffinement de la culture d'un côté avec ce personnage de Thorndike avec sa cape,
son accent british,
sa manière d'appeler le pianiste de bar ménestrel, et c'est cette façon dont il est. En plus, il est filmé en contre-plongée, il est juché sur la table avec sa cape. Et puis en face, les Clinton qui sont plus brutes qu'on ne pourrait l'imaginer, qui éructent, ils sont à peine capables de parler, ils utilisent leur pistolet. Et donc il y a cette confrontation avec laquelle joue Ford, parce qu'il a vraiment la caricature à l'extrême. Et puis ce qui est intéressant, c'est que celui qui lui souffle la fin de la réplique et qui se met à parler à sa place, c'est Doc Holliday. Et dont on voit, et ça révèle en fin de compte, cet homme de l'Est qu'il a été, puisqu'il est capable de déclamer du Shakespeare. Et par-dessus le marché, le contenu de la tirade, cette crise existentielle dans laquelle se trouve Hamlet à ce moment-là, c'est justement la crise que vit Doc Holliday. Donc entre ce début burlesque, comique, de caricature du choc des cultures et cette fin qui révèle finalement la crise dans laquelle est le personnage de Doc Holliday, c'est une scène vraiment, vraiment magnifique et très forte.
Et c'est l'irruption du vieux continent aussi au sein de dans cette ville pionnière.
Effectivement, c'est ce que fait également Ford dans le Convoi des Braves, où il y a aussi comme ça un comédien qui est joué aussi par Alan Mowbray, le même acteur, qui fait surgir effectivement oui toute la culture de l'Est dans un saloon à travers la tirade d'Hamlet. C'est vraiment extrêmement fort.
Mais la référence à Shakespeare, n'est-ce pas aussi une manière pour Ford de réfléchir sur le western en tant que genre? Parce qu'il y a le théâtre shakespearien, vous l'avez dit, la façon d'allier le grandiose avec le burlesque. On a vu que le film de Ford, La Poursuite Infernale, s'ouvrait avec cette scène burlesque chez le barbier. Il y a quand même cette volonté aussi de s'inscrire dans un héritage culturel, théâtral, shakespearien, et de voir comment il s'en accommode.
Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, on pense assez rarement à faire les liens entre le théâtre et le cinéma, et le théâtre de Ford en particulier. Et on pourrait tout à fait y voir une sorte de mise en abîme, finalement, du genre du western, ce que confirme ensuite la patience avec laquelle il filme justement la scène au théâtre, où le public attend cette représentation qui n'a pas lieu parce que le comédien est retenu et finalement ne viendra jamais, et la fureur des cow-boys qui attendent le spectacle et qui ont l'impression de s'être fait avoir, d'avoir attendu pour rien.
Il y a un autre spectacle qui a lieu peu de temps après dans le film, et c'est là où on voit que peut-être le producteur de Ford avait raison, il y a des scènes vraiment d'anthologie qu'on peut commenter, c'est ce qu'on fait là d'ailleurs, hein, ce qui n'enlève rien à la cohérence du film. Mais elle fonctionne presque de manière indépendante.
Oui, c'est comme des scénettes en fin de compte.
C'est ça. Et une scénette, pour reprendre notre expression, assez inattendue, c'est l'inauguration du nouveau clocher de l'église de cette ville, donc tombeau, tombstone. Le prêtre va donner un office pour l'occasion. Il dit, bon, on a bien mérité quand même une bonne danse, une satanée bonne danse, c'est-à-dire en français, avec le bon jeu de mots. Et là, le shérif, donc Wyatt Earp, va inviter cette Clementine à danser, ce qui donne lieu à une scène de danse. Alors là aussi, qui pourrait être sublime, qui est en fait un peu maladroite, il est un peu gauche, il sait pas très bien danser, c'est très touchant. Écoutons cette scène et puis vous nous direz ensuite l'importance de Clementine dans le film.
I love your town in the morning, Marshall. The air is so clean and clear. Scent of the desert flower.
That's me. Barbara.
Shérif, puis-je aller avec vous? Vous allez bien à l'office, n'est-ce pas?
Oh, oui, mademoiselle. Je serai flatté de vous emmener.
Merci.
Temple de tombeau qui n'a pas encore de nom ni de pasteur non plus officiellement consacré. Maintenant, je ne prétends pas être pasteur, mais j'ai consulté la Bible de la première à la dernière page et je n'y ai pas lu un seul mot contre la danse. Aussi va-t-on commencer une de ces sacrées bonnes danses.
Oui, imaginer les deux personnages, le shérif et Clementine, qui tournoient dans un ciel bleu en contre-plongée. Et la beauté de cette scène, la référence à la religion qui n'a jamais condamné la danse, nous dit le prêtre. Donc, eh bien, dansons. C'est une scène, là aussi, un peu étrange. Ford a été tenté à un moment par le documentaire, je crois. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut le voir, cette manière qu'il a de laisser tourner la caméra quand l'action et les paroles sont terminées.
Oui, en parlant du documentaire, en 1946, il sort de la production de deux documentaires qu'il a réalisés pendant la guerre et pour laquelle il a eu l'Oscar du documentaire. Donc effectivement, c'est une partie de son cinéma qu'on néglige parfois, mais qui est importante de rappeler. Et puis, les scènes de danse, effectivement, dans les films de Ford, sont à la fois des pauses narratives documentaires et des scènes rituelles. Ça revient dans énormément de films, et pas seulement des westerns. Ce sont des scènes vraiment qu'on retrouve d'un film à l'autre et qui sont l'incarnation de la communauté aux yeux de Ford. Et ce qui est intéressant, c'est la communauté à la fois devant la caméra et derrière la caméra. Parce que lors des tournages, et notamment les tournages en extérieur, il y avait des chansons et des danses tous les soirs. Et Ford avait un accordéoniste de plateau, Denny Borzaghi, le frère de Frank Borzaghi, qui l'accompagne depuis Le Cheval de Fer, donc en 1924. Et qu'on voit aussi là, devant la caméra, parmi les musiciens qui jouent. Et il y a là toute l'équipe de Ford qui est rassemblée dans cette danse aussi, tous les figurants, tous les personnages secondaires, les acteurs qu'on voit d'un film à l'autre, son frère Francis Ford, qui l'avait fait venir à Hollywood en 1914 et qui avait commencé sa carrière de cinéaste avant lui, et c'est Ford finalement qui a pris le pas sur son frère aîné. Il est dans tous ses films, jusqu'à sa mort en 1953, Francis Ford, et là il joue du violon. Celui qui joue du piano, le barman, c'est Jeffrey McDonald, qui est aussi un acteur de Ford qu'on voit dans tous ses films. Donc on a vraiment l'impression que la communauté est des deux côtés de la caméra. Et puis effectivement, c'est le couple Clementine et Wyatt Earp qui se forment là à l'occasion de cette danse. Il hésite à l'inviter, il est timide, il est gauche, il danse de manière extrêmement raide, et d'ailleurs il danse exactement comme dans Young Mr. Lincoln, Henry Fonda. Et certains collaborateurs de Ford disent que Ford a souhaité revoir Fonda danser comme ça en levant les genoux vers le ciel, et la scène est splendide, comme toutes les scènes de danse d'ailleurs filmées par Ford.
Et cette Clementine détonne plutôt avec le reste des personnage. Elle arrive, elle est très élégante, elle parle de manière assez précieuse et soutenue. On se demande pourquoi elle est amoureuse de Doc Holliday, qui en plus l'envoie balader. C'est pourquoi elle est prête sans doute à tomber amoureuse de Wyatt Earp, mais c'est un personnage très intrigant qui n'occupe pas beaucoup de place en termes de secondes dans le film, et auquel pourtant John Ford a donné le titre.
Oui, et je pense qu'elle est le fil conducteur du film. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs dans les films de Ford, là aussi comme pour les Indiens, c'est comme s'il leur redonnait leur place dans l'histoire de l'Amérique. Je pense que c'est vraiment le fil conducteur du film. On le voit peut-être à travers la manière dont la chanson est présente dans le film. La chanson, la première fois qu'on l'entend, l'air, ce sont les pianos qui jouent dans les saloons lorsque les frères Earp arrivent à Tombstone pour se faire raser, donc au tout début du film. Mmh. Évidemment, on n'y prête pas attention, et Wyatt Earp non plus, mais ça a une fonction un peu prémonitoire. On entend un piano jouer My Darling Clementine. Ensuite, un peu plus tard, Clementine arrive et Ford fait entendre la musique lorsqu'elle rencontre Earp dans la chambre de Doc Holliday. On entend l'air de la chanson. Et puis ensuite, c'est Wyatt Earp qui siffle l'air de la chanson, croyant qu'elle ne le voit pas. Et donc, elle le surprend en train de siffler cet air et donc de lui faire une déclaration d'amour, finalement, à son insu. Et puis finalement, on l'entendra comme une sorte d'apothéose à la fin, avec enfin les paroles lors de la scène finale où ils se disent adieu. Donc moi je dirais que Clementine, c'est vraiment le fil conducteur du film.
Mais alors ça change le sens du film, ça donne une dimension sentimentale, amoureuse.
Et puis c'est aussi le trajet d'est en ouest d'une femme, puisqu'elle arrive pour chercher Doc Holliday qu'elle voudrait ramener à l'est, et finalement elle décide de rester. Et on comprend à la fin du film qu'elle va être engagée comme institutrice pour la nouvelle école qui n'existe pas encore. D'ailleurs, ce qui est très frappant dans ce film, c'est qu'il n'y a aucun enfant. C'est assez
étonnant. À la différence de L'Homme des Vallées Perdues, dont on parlera demain, où c'est un enfant qui joue le personnage principal.
Oui, à Tombstone, il n'y a pour l'instant pas d'enfant.
Pour l'instant. Mais il se quitte à la fin du film en même temps.
Il se quitte, il lui dit qu'il repassera sans doute et qu'il repassera précisément par l'école. Donc la fin est quand même un petit peu ouverte, on peut pressentir des retrouvailles.
Donc cette dimension sentimentale sur laquelle voulait insister Ford, c'est une manière d'ajouter une nouvelle problématique au western. C'est pas la justice, c'est pas l'action, c'est pas la vengeance, c'est l'amour.
Oui, c'est un film...
Et la femme.
C'est un film contemplatif, c'est un film sentimental. Vraiment, Madame Clementine, c'est pas du tout un film d'action. Et puis le dernier plan consacre à Clementine une place dans le paysage de Monument Valley. C'est un plan absolument splendide. D'abord un champ où en contre-plongée, où on la voit près d'une barrière dire, avec le ciel immense derrière elle. Et puis le contre-champ, quand elle laisse les frères Earp partir vers le paysage quasiment infini, elle est près d'une barrière, comme souvent les couples chez Ford sont filmés près d'une barrière, comme s'il y avait là une sorte d'incarnation du rapport entre l'intérieur et l'extérieur, la femme du côté du foyer, l'homme qui part se perdre dans le paysage à l'aventure. Donc il la sublime là dans cette fin, dans ses adieux. Et puis ce qui est intéressant aussi quand on voit le film, c'est de penser que le baiser que lui donne Wyatt Earp pour lui dire adieu n'a pas du tout été souhaité par Ford.
Et un baiser sur la joue.
Oui, un baiser sur la joue, très très chaste, très prude. C'est pas du tout ce que voulait Ford. Ford voulait simplement qu'il se serre la main. Et apparemment, à la projection preview, le public a tellement ri que Zanuck s'est senti obligé de demander à un réalisateur de seconde épique, Lloyd Bacon, de retourner une scène en studio où Earp embrasse Clementine sur la joue avant de lui serrer effectivement la main. Et quand on voit, parce qu'il a quand même maintenu le plan où il lui serre la main, quand on voit comment il retient sa main dans la sienne plus de temps qu'il ne faudrait, on voit que c'était beaucoup plus émouvant que ce baiser un peu gauche de studio que Zanuck a rajouté.
Alors on va se quitter avec ce dernier extrait, ces adieux et ce baiser, d'autant que plus tôt dans le film, un autre baiser avait été refusé. Voici donc la dernière scène du film. On retrouve les cieux. On a passé beaucoup de temps dans la ville de Tombstone. Et là, de nouveau, le paysage s'ouvre. On voit les cieux et le cow-boy qui s'en va au loin comme il se doit.
Goodbye, ma'am. Mighty nice to have made your acquaintance. Get along, horses.
There's so many things I wanted to say, and now nothing seems appropriate.
Yes, ma'am. Yeah, I know.
Le maire dit que vous pourriez rester un peu et peut-être aider à ouvrir une école.
Oui, c'est moi l'institutrice.
Mais c'est très bien, mademoiselle. Moi et Morgan, nous allons voir père. Lui dire ce qui s'est passé. Je pourrais revenir dans l'Est chercher du bétail. Peut-être que je m'arrêterai ici.
Arrêtez-vous à l'école?
Oui, mademoiselle, et comment? Au revoir, mademoiselle.
Au revoir.
Mademoiselle, j'aime beaucoup ce nom-là. Clémentine.
C'est sûr, cette mélodie vous accompagnera toute la journée maintenant. Merci à vous, Cécile Gornet, d'être venue nous parler de Ford aujourd'hui.
Merci de m'avoir invitée.
Et de ce film, donc La Poursuite Infernale, My Darling Clementine. C'est tellement plus beau en anglais.
Ah oui.
Vous êtes, je rappelle que vous enseignez la philosophie au lycée Henri IV de Béziers, que vous avez publié votre M2, l'écriture de l'histoire au miroir du cinéma, les westerns de John Ford, aux éditions Classic Garnier, que vous êtes en train de rédiger votre thèse de cinéma sur John Ford. Ben, on espère qu'elle sera publiée, vous reviendrez en parler.
Avec plaisir.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, aujourd'hui, vous nous proposez un tour d'horizon des essais sur la cause animale.
Eh bien, c'est toujours un sujet d'actualité qui continue donc à alimenter les réflexions des chercheurs de tous bords et donc des philosophes. Alors, ces essais ne prennent pas la même forme, mais ils ont tous le même but, nous sensibiliser à la cause animale intelligemment. La formule est importante car pour comprendre et agir sur une cause, encore faut-il y être sensible. Mais comment sensibiliser à un problème dont l'énoncé pourrait suffire à faire réagir, comment l'esprit peut-il être touché et activé sur un sujet?
Des actions choc, c'est la nouvelle méthode des associations qui défendent la cause animale. Elles dénoncent tous azimuts la fourrure, les cirques ou les abattoirs. Depuis 5 ans, leurs moyens d'action se sont durcis. Sur Internet, pour faire le buzz, elles diffusent chaque mois des nouvelles vidéos prises en caméra cachée. Comme ici, dans les abattoirs, mis en ligne par l'association L214. Ou encore dans les laboratoires, 4 millions de vues pour cette vidéo très polémique. Sur ces images, on découvre des chiens sur lesquels seraient testés des traitements pour soigner la myopathie dans un laboratoire financé par le Téléthon.
Parmi les moyens utilisés pour sensibiliser à une cause, il y a bien sûr le choc qui passe, comme ce genre de reportage, par l'image. Et l'image, c'est aussi le parti pris du livre d'Audrey Jouglat et Laurent Baheu, Animalité, 12 clés pour comprendre la cause animale, qui associe des notions comme liberté, empathie, valeur, à des photos d'animaux. À ceci près que les photos, ici, tranchent par leur douceur, par leur beauté. La sensibilisation passe ainsi non par la reproduction des violences faites aux animaux, mais par un contre-pied à ces violences mêmes. Faut-il alors abandonner l'intention de choquer ? Eh bien pas forcément, parce qu'un autre essai de Valérie Giroux contre l'exploitation animale mise, lui, sur la puissance de l'argument philosophique. Face à la logique implacable de la démonstration rationnelle, l'esprit ne pourrait que s'incliner, il ne pourrait que se rendre à l'évidence. Mais notre esprit est-il vraiment sensibilisé à coups d'arguments ? Et inversement, notre chair est-elle en mesure d'agir rationnellement après un choc ? La question est vraiment passionnante. Qu'est-ce qui fait qu'un problème, pourtant compris, pourtant ressenti, ne devient pas pour autant un problème pour moi ? Pourquoi un problème comme celui de la cause animale ne me pose-t-il pas forcément problème ?
L'évolution leur a donné quatre mains pour circuler à leur aise dans les arbres. Mais ces mains peuvent faire bien d'autres choses. Les orangs-outans s'en servent beaucoup dans leurs ébats. Et de leur bouche aussi. Les macaques du Japon gardent la sensualité pour les bains. Eux s'accouplent brièvement, mais souvent. C'est indispensable pour déclencher l'ovulation. De toute façon, les préliminaires sont moins utiles puisque les partenaires se connaissent parfaitement.
Le problème de la sensibilisation de l'esprit à un problème, comme la cause animale, c'est de trouver à travers la parole et l'argumentation un registre intermédiaire entre le pur pathos et le pur rationalisme. Et c'est peut-être ce qu'on trouve d'une certaine manière dans ce genre de documentaire animalier, mais c'est aussi ce qu'on trouve dans le livre de Fleur Daugé, Animaux Homo, dans lequel elle se penche sur l'homosexualité animale, battant ainsi en brèche l'idée qu'elle serait contre nature. C'est une enquête étonnante, car elle ne fait pas entrer les animaux dans notre monde de la politique, de l'éthique et de l'esprit, mais c'est elle qui entre dans leur esprit et dans leur monde. C'est d'ailleurs une tendance qu'on peut remarquer, la tendance à tenter de véritables expériences de pensée.
On avait ce qu'on appelle les meneurs de loups, mais il y a eu surtout les loups-garous. Hein, et nous avons trouvé les traces des derniers loups-garous. Hein, le dernier vivait là, pas très loin de Champly. Et il s'habillait avec deux peaux de loup. Alors il commettait ses larcins, il allait faire ses espèces d'incantations diaboliques aussi. Il allait dans les maisons quand quelqu'un était mort. Il arrivait vers les 2 heures du matin, puisqu'on faisait encore l'éveillé des morts dans ce temps-là. Il faisait le tour de la chambre, il s'incline un peu devant le lit. Et puis il tendait une escarcelle en disant un petit sou de deux sous pour mettre dans la gueule du loup-garou.
Alors on peut rire d'un tel récit.
C'est ce que je fais.
Un loup-garou ou un homme se prenant pour un loup, mais il restitue d'une certaine manière les expériences de pensée tentées aujourd'hui, celles non pas de penser l'animal ou de penser avec l'animal, mais de penser comme un animal. On pourrait presque dire que c'est du transanimalisme. Et c'est ce que révèle le livre passionnant de Baptiste Morisot sur la piste animale qui est paru chez Actes Sud, dans la lignée de l'américain vétérinaire Charles Foster, qui se met dans la peau d'une bête. Il nous raconte, lui, comment pister, c'est-à-dire comment apprendre non pas à être sensibilisé aux animaux, mais sensible comme des animaux dans leur manière de vivre et d'habiter le monde.
Merci Géraldine. Beaucoup d'ouvrages à conseiller sur cette histoire, sur cette question de l'exploitation animale.
Alors, le dernier que je viens de citer, c'est Baptiste Morisot sur la piste animale aux éditions Actes Sud. Valérie Giroux contre l'exploitation animale, c'est aux éditions L'Âge d'Homme. Animalité de Laurent Baheu et Audrey Jouglat chez Atlan. Et enfin, Fleur Daugé, Animaux, Homo, Histoire naturelle de l'homosexualité, c'est chez Albin Michel.
Merci pour ces lectures. Elles seront en ligne sur le site du Journal de la Philo ainsi que votre chronique à réécouter. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Illig qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzinkan qui était à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le western. Demain, nous parlerons de l'homme des vallées perdues, Shane en anglais, qui a fait un carton aux États-Unis qui est très peu connu en France. Yves Pedronneau viendra nous expliquer pourquoi, vous verrez, c'est une analyse passionnante. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur John Ford et la poursuite infernale My Darling Clementine, sachez que c'est très simple et très facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie, vous pouvez réécouter l'émission en ligne à volonté, mais aussi la télécharger, la podcaster, ainsi que toutes les émissions précédentes, des semaines, des mois et des années précédentes. Comme ça, vous pourrez les écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.